Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en solo, bande-annonce. Man Croc, film de Christy Pouillou. Je vous assure que j'ai enregistré ça en une fois. C'est avec Agathe Bosch, Frédéric Schulz, Richard, Diana Sakalaou-Sakaïté, Hugo Brousseau. Julie, tu es seule. Malheureusement, il a été très très peu distribué, Man Croc. Film roumain, et à partir de là, je te laisse. On y va.
C'est Man Croc est un film roumain de 3h20, où pendant ces 3h20, il y a 5 personnages qui sont... soit d'origine russe, soit française, soit russo-français ou franco-russe, comme vous voulez, qui discutent. Et en fait, ils discutent de métaphysique, de Dieu, de l'antéchrist, de la guerre, de l'Europe. Et ils ne font que ça pendant 3h20, ils discutent. Ça ne fait, je sais, absolument pas envie, mais pour autant, c'est quand même très bien.
Il y en a eu plein des grands films qui discutent. Lila a l'air conquise.
Moi, je suis... vendu, parce que, comme je le disais un peu plus tôt, moi, ça me fait penser à Platonov, qui est ma pièce préférée. C'est 3h30 de théâtre où de l'aristocratie russe s'ennuie dans une villa au milieu de nulle part. Donc,
peut-être l'aristocratie russe, c'est peut-être la seule dont on tolère d'être spectateur de l'ennui.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir lu Dostoïevski avant de dire ça.
Oui, certes,
non,
mais bon.
Il y a clairement une inspiration dostoïevskienne, mais en vérité, Man Croc, en fait, c'est une adaptation, ce qui est un fait, je crois, assez rare, d'un livre philosophique écrit par je ne sais plus quel auteur, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de fiction qui soit adaptée de base d'essais philosophiques. Mmh. Et il se trouve que cet auteur était justement un très bon ami de Dostoïevski, d'où aussi l'inspiration, on va dire, commune. Il y a quelque chose de commun au roman de Dostoïevski et à ce film-là.
Du coup, c'est un drame, je suppose, un film historique peut-être.
Non, c'est pas un drame.
C'est pas un drame.
Non, c'est assez difficile à caractériser dans la mesure où, d'abord, je considère que ça aurait pu être un échec parce que, mine de rien, arriver à tenir intact l'intérêt du spectateur pendant 3h20 autour de 5 personnages qui parlent, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a, on va dire, des subtilités qui, du fait de ce manque d'action, surgissent à l'écran et à l'œil et qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer et qui rendent le tout extraordinaire.
Donne-moi le détail.
Ah ben le détail, c'est que par exemple, moi, ce que je ne savais pas, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais voir un film qui a un côté roman russe et en même temps qui est fait par un roumain, et là je découvre que c'est en français. Ah ben je comprenais pas, c'est-à-dire je voyais mes séances, je me disais ben non, je veux aller voir ma séance à VO, pourquoi il écrit VF ? Et non, donc le film est en français, parce qu'en fait, à l'époque, la langue française était considérée comme la langue intellectuelle, c'est-à-dire on se situe aux alentours de 1900, on va dire, et donc ces personnages échangent constamment en français, à tel point que leur langage soutenu, parfois, est ponctué de quelques fautes de langage qui ont été laissées à dessein par le réalisateur exprès, on va dire, en guise de clin d'œil au spectateur. Et on les remarque. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments pendant 3h20 où subitement ils vont buter sur des mots et ils vont se reprendre et ils vont continuer à dérouler leur discours. Et là où c'est assez intéressant, en fait, c'est qu'à mon sens, Pouillou, il filme d'une manière où ces cadres ne sont pas, j'ai envie de dire, plats. Quand je dis plats, je veux dire que souvent, dans les films modernes, on a des actions où l'émotion est surenchérie grâce à des zooms sur les expressions faciales des acteurs. Et donc, on a l'impression, par conséquent, qu'il y a une énorme émotion, alors qu'en fait, non, c'est juste que, voilà, en faisant un zoom dessus, on ne voit que ça. Là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un décentrement, il y a beaucoup de plans américains ou de plans où on les voit quasiment tout entiers, mais en même temps qu'ils parlent, il va se passer quelque chose juste derrière au second plan, et parfois il va se passer même quelque chose au troisième plan. Et des choses sur lesquelles on se pose des questions, parce qu'on doit à la fois se concentrer sur le discours, et à la fois on est vigilant sur ce qui se passe derrière. Et donc très souvent, pendant qu'ils parlent tous, il y a un ballet incessant, mais qui est merveilleux, enfin, c'est d'une fascination incroyable, de tous les domestiques, majordomes, etc., qui en fait permettent, j'ai envie de dire, leur étalage de richesse. C'est-à-dire qu'on a ces gens qui discutent sans arrêt du bien, du mal, comment faire le bien, comment faire le mal, mais ils ne remarquent absolument pas, voire ils méprisent, mais d'une façon incroyable, tous les gens qui finalement leur permettent de discuter, j'ai envie de dire, dans leur cercle complètement bourgeois. Donc quand par exemple il y en a un qui apporte un verre d'eau, ils ne disent pas merci ou apporte, ils font un signe du doigt en fait. C'est le langage est aussi présent entre eux qu'il est absent avec les autres. C'est comme s'ils répugnaient finalement à s'adresser dans leur propre langue. Et c'est ça va jusqu'à un bout où il y a des chapitres, donc le film est découpé en chapitres par personnage, et il y a un chapitre qui est consacré au majordome. Donc à ce moment-là, on est hyper intrigué, on se dit, mais tiens, on va avoir une autre version, en fait, de comportement social, mais pas du tout. On a une version qui est bien pire, où en fait, le majordome, il pète un câble, parce que le samovar, donc qui est cette... on va dire cet appareil qui sert à faire le thé en Russie, le samovar donne un thé qui n'est pas bon. Et il commence à s'énerver jusqu'à frapper un domestique. Et donc, en fait, il répercute ce que ses patrons font sur lui, sur les autres domestiques. Et il y a toutes ces choses-là qui se passent parfois au premier plan, parfois à l'arrière-plan. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la vieillesse ou de l'enfance ne doit pas exister. À un moment, ils sont tous assis, ils discutent depuis une heure sur l'Europe. Et on voit une enfant toute heureuse qui commence à courir du fond, qui veut rejoindre, on suppose que l'un d'entre eux est un parent, et elle est stoppée net par une domestique lui disant « Non, en fait, toi, tu retournes là-bas. » Et donc, la fin, elle est obligée de partir avec elle. À un autre moment, il y a un vieillard qu'on suppose pareil, parent de l'un d'entre eux, mais on ne connaît pas exactement ses liens familiaux, qui va se mettre à chanter l'International. C'est un vieillard complètement cachochim. On se dit « Il va crever, lui. » Et là, au lieu d'aller le voir, de comprendre ce qui se passe, ce sont les domestiques qui s'occupent de lui, qui lui mettent la couette dessus, qui le lavent, qui le bordent. Et il y a un personnage qui dit « Vous fermez la porte ». Et donc, tout ce qui est au niveau de l'extérieur, encore une fois, fait qu'ils vivent en vase clos. Ils ne veulent juste vivre que pour l'échange intellectuel, mais complètement superficiel. Et par rapport à ça, il y a une action incongrue en plein milieu du film qui, quelque part, on va dire, symbolise ce qui est censé arriver à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sonnent le majordome à la clochette. Une fois, il vient pas. C'est bizarre. Il sonne deux fois, trois fois. Les autres le regardent étrangement du genre « Mais non, en fait, tu vas pas te lever pour aller voir ton majordome. C'est pas ton rôle. » Mais il a pas le choix. Il faut quand même aller voir parce que c'est tellement inhabituel qu'il faut se précipiter pour aller voir. Donc là, ils y vont à plusieurs. Il y a tous les domestiques qui courent vers eux et en fait, on se doute qu'il y a un cabriolage, quelque chose, et ils se prennent tous une balle dans la tête. Le film fait un noir et on repart sur les discussions.
D'accord. Donc, ok. C'est
la seule action incongrue du film et là encore, c'est assez original dans la façon dont c'est fait parce que ça rend l'ensemble de ce film, malgré les costumes, malgré les discussions, complètement, finalement, anti-classique. Et pour moi, c'est ce qui fait que, par extension, c'est le film à voir cet été, quoi.
C'est pas du tout un drame, en fait, je disais une connerie. C'est un ballet philosophique.
Exactement. Et qui se termine sur... je peux le dire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'action hormis celle que je viens de décrire. Un des personnages va chercher un manuscrit qu'il a très vieux sur l'Antéchrist, après une discussion sur le sujet, où en fait, il parle de son rapport à la religion. Et le film se termine à ce moment-là.
Ok. Donc on peut imaginer tout ce... ouais.
On peut imaginer tout ce qu'on veut. J'essaie de rendre la chose la plus intrigante possible, mais...
C'est déjà très intrigant.
Enfin, vu la manière dont c'est mené, c'est pas forcément évident. Sachant qu'un des personnages, en fait, à force de le voir, on se doute que c'est lui qui tient le discours de l'auteur du livre, donc qui tient son idéologie. Cependant, pour ceux qui vont aller le voir, je préfère le dire, allez le voir bien réveillé, parce que si vous lâchez ne serait-ce que 3 minutes de la discussion, vous ne comprendrez plus rien à ce qu'il dit. C'est un des films les plus exigeants que j'ai vu ces dernières années.
Tu vas être rincé.
J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Je fais pas de sport, mais je me sentais, j'avais perdu 4 kilos là, c'était fini. Quoi.
On va sortir un petit peu. On a le nez dans le film. Je pense qu'on a une bonne idée, même ceux qui l'ont pas vu, de ce que c'est. En termes de prérequis, tu disais à moitié une vanne. Il faut avoir lu Dostoïevski. Est-ce que c'est limité ? Non, limité, c'est peut-être un terme un petit peu dur. Est-ce qu'il faut avoir des prérequis sur ce film ? Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce que c'est les clins d'œil que le réalisateur fait au travers de sa mise en scène ne sont pas faits, designés pour un certain type de spectateur en laissant volontairement les autres de côté ?
Alors,
ce qui n'est pas forcément...
Je dirais pas qu'il faut avoir nécessairement lu de romans russes parce qu'on peut aimer les grandes discussions et les films sans action sans nécessairement avoir lu de romans russes. En revanche, je pense que ça va être compliqué, et je le dis sans élitisme, si on n'a pas un minimum, à mon sens, de corpus littéraire. Parce qu'il y a des mots... par exemple, si je dis l'AGN autour de cette table, qui sait ce que c'est ?
Si, c'est l'association des grands nombrils.
C'est des saints et jetés au lion, ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, c'est un synonyme, c'est une analogie avec l'enfer. Donc il y a ce genre de mots, encore une fois, qui, dans un discours soutenu, sont prononcés, Et c'est pas le seul, mais là j'en prends un qui me semble parmi les plus emblématiques. Si on sait pas ce que ça veut dire, ça devient compliqué de comprendre de quoi, on va dire, je vais le refaire. Si on ne comprend pas ce mot, ça devient compliqué en fait de saisir le fond de ces discussions.
Bon. Des questions peut-être.
Là, je crois que j'ai douché Robin pour aller voir le film.
Un mot que je connais pas, c'est terminé. Merci beaucoup, Julie, pour cet avis éclairé sur le même croc. J'espère, pour ceux qui sont curieux, si jamais vous avez écouté cette émission et que vous cherchez le film, j'espère que vous avez une séance à côté de chez vous, parce que sans quoi c'est une heure, t'as fait une heure de transport toi pour...
C'est ça, une heure de transport pour 3h20 de film, autant dire que j'y ai passé la demi-journée, mais voilà, ça en valait la peine. Et puis je comprends aussi les difficultés de distribution dans cette période post-Covid, d'autant plus qu'un film de 3h20, ça veut dire moins de séances, donc c'est plus compliqué.
Ne soyons pas naïfs.
Voilà.
Bon. Merci beaucoup en tout cas Julie, pour ton avis.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.